Bonjour à tous. Bienvenue, je suis Bonnery, président de l'Association des économistes de l'énergie. J'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce séminaire, webinaire, intitulé Le avec l'éclairage. Alors, je voulais juste donner un petit peu de logistique. Si, je vous invite à couper vos micros si vous n'intervenez pas pour qu'on puisse bien s'entendre. Alors, et puis éventuellement les vidéos, mais c'est vous qui voyez. Donc, je disais que vous êtes arrivé aujourd'hui dans les webinars. Please, could you come to mute? Est-ce que vous pouvez mettre votre micro?
I love you, Henri.
Claire, je pense que tu dois avoir une fonction qui te permet de...
Oui, je l'ai mis en muet, tout à fait.
Et je pense qu'il faut, mettre d'autorité en muet tout le monde.
Ouais, ouais.
Ce qui me paraît...
Alors, je recommence. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce webinaire intitulé Le Covid-19 avec l'éclairage de l'économie et du climat. En fait, ce titre vient du fait que nous allons nous appuyer sur deux ouvrages remarquables qui vont vous être présentés, celui de Christian de Pertuis et de Christian Gaulier. Et je voulais signaler également que ce webinaire est co-organisé par l'Association des économistes de l'énergie, que je représente, et par la chaire économie du climat qui va prendre le relais bientôt. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine, qui va animer le débat. Nous remercions également les panélistes et toutes les personnes qui ont participé à l'organisation. Quelques mots pour ceux qui ne la connaissent pas sur l'Association des économistes de l'énergie. L'AE est la représentation en France de l'International Association for Energy Economics, la plus grande plateforme du monde qui réunit les économistes de l'énergie, c'est-à-dire 4000 économistes dans 100 pays. L'AE en France et l'IE fournissent un forum entre les économistes et les professionnels. Ce forum permet d'échanger des idées, des expériences et de parler des grands thèmes de l'actualité, celui qui nous réunit aujourd'hui, le COVID. L'organisation réalise deux publications académiques à comité de lecture, un journal et des conférences sur tous les continents. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre sur frae.fr. Quelques consignes pour vous passer la parole à Geoffron. D'abord, la conférence est enregistrée et ceux qui ne pourront pas aller jusqu'au bout ou qui n'auront pas pu assister, il y aura des questions-réponses possibles. Donc, vous pourrez utiliser les fonctionnalités de l'outil en bas de votre écran. Et je vais m'arrêter là pour passer la parole tout de suite à Patrice Geoffron qui va vous expliquer plus le contexte et l'organisation de cette belle conférence. Patrice, c'est à toi.
Merci beaucoup Christophe, bonjour à toutes et à tous. Je vais rappeler la consigne qui est en usage dans tous les webinars mais qui n'est pas encore totalement appliquée parmi nous. Il faut que vous éteigniez s'il vous plaît vos micros et je vois encore une bonne dizaine de micro ouvert avant de dénoncer
nommant. Pascal l'a noté. Oui.
En nommant personne, notamment Richard Laverne, qui téléphone et qu'on entend. Si tu veux bien, Richard, fermer ton micro, voilà, c'est merveilleux. Encore deux ou trois et je commencerai ensuite. Didier Bethier, cette fois je dénonce. Voilà, très heureux de vous retrouver avec une conversation qui va s'organiser autour des différents ouvrages qui sont là. Nous avions programmé de nous retrouver, je crois de mémoire, le 23 mars. Et cette date avait été retenue au mois de janvier. Pour des raisons qui sont évidentes pour toutes et tous, ça n'a pas pu se faire sous cette forme. Et j'allais dire heureusement ou malheureusement de cette actualité de réfléchir autour des questions climatiques et non moins brûlantes. Et nous devons nous livrer à cet exercice, évidemment, dans un contexte qui est un peu particulier, qui est celui de cette crise sanitaire, qui est venue se surajouter à la crise climatique. Et donc, il est important de pouvoir entrelacer les deux dans une réflexion. Premièrement, on a pu observer que, dans cette période assez étrange et ça n'avait plus été le cas depuis une bonne douzaine d'années, les émissions de CO2 ont transitoirement baissé, ce qui d'un point de vue macroéconomique évidemment n'est pas une grande surprise, mais qui pourrait perturber les perspectives et les objectifs à l'avenir, dans la mesure où on va perdre une partie de la métrique et celle de la relation entre la croissance économique et les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, par ailleurs, il est intéressant d'observer que, notamment autour des perturbations du prix du pétrole durant cette période, d'autres évolutions ont commencé à se dessiner. On a vu que dans l'amont pétrolier, les investissements ont baissé assez drastiquement. Tout ça ne pourrait n'avoir qu'un caractère conjoncturel, mais ce n'est pas sûr du tout parce que cette crise est un choc additionnel qui est venu s'ajouter aux difficultés d'une industrie qui était d'ores et déjà sous pression, hein, qui est celle du pétrole, et qui s'est retrouvée placée dans l'obligation de réadapter ses stratégies d'investissement. On a vu apparaître durant cette période une série d'annonces qui étaient pour le moins inattendues. Shell qui a annoncé son engagement à devenir neutre en carbone dans des conditions qui ne sont pas encore totalement définies en 2050. Total qui a fait de même il y a deux ou trois semaines. Et tout ça dans le prolongement de BP qui avait fait ce type d'annonce auparavant. Tout ça pour dire que nous sommes d'autant plus intéressés à entendre ce que Christian Gollier et Christian de Pertuis ont à nous dire. Christian Gollier qui est professeur d'économie à l'École d'économie de Toulouse dont il est par ailleurs directeur général. Christian de Pertuis qui est professeur d'économie à Dauphine et fondateur de la chaire d'économie du climat qui est dirigée à l'heure actuelle par Anna Créti. Et Anna nous fera l'amitié de nous dire ensuite quelques mots de conclusion. Voilà, Christian Gollier et Christian de Pertuis, vous avez à partir de maintenant une vingtaine de minutes chacun. La règle est de poser des questions via le chat et je me ferai votre porte-parole. Christian Gollier, à partir de là, tu as la main, donc tu peux charger tes slides et je te donne la parole si tu veux bien.
Merci beaucoup, Patrice. C'est évidemment un énorme plaisir pour moi de débattre en particulier avec ma chaire d'économie du climat, avec laquelle tout TSE a lié depuis de nombreuses années un partenariat parfois explicite, souvent un peu plus implicite. Nous partageons souvent les mêmes points de vue, même si je pense qu'aujourd'hui vont apparaître quelques craquements dans ce consensus, comme il y a partout. Hein, c'est un problème du changement climatique est un problème monstrueux. En fait, c'est probablement le challenge auquel est confrontée l'humanité qui est le plus extraordinaire de tous les temps, hein, qui peut remettre en cause l'avenir, le destin de l'être humain sur la planète, tout simplement. Donc la chaire d'économie du climat fait un super boulot. Hein. Elle produit à la fois un savoir théorique, une analyse des politiques économiques et une analyse des données disponibles sur les évolutions à la fois des prix du carbone et des prix implicites du carbone à différents endroits et le mécanisme de UETS, l'ensemble des marchés de permis d'émission. Tout ça est fort utile, hein, dans un monde très très fragmenté encore sur ce sujet. Nous sommes aussi à un moment un peu charnière, hein, à la fois parce que nous sommes à la veille du dernier week-end de la réunion de la Convention citoyenne qui doit, si je comprends bien le calendrier, remettre son rapport dans les jours à venir. Donc, je suis extrêmement impatient et je le suis depuis un certain nombre de mois puisqu'initialement, le rapport devait être remis au mois de janvier, si je me souviens bien. Donc on comprend bien qu'il y a eu un certain nombre de retards à cause de différentes choses, notamment le Covid-19. Hein. Mais donc l'impatience est énorme. J'espère que cette convention citoyenne va venir avec de bonnes idées et des choses constructives pour que la France et l'Europe puissent contribuer à affronter cette responsabilité cruciale envers les générations futures. Donc moi personnellement, ça fait 3 mois que je travaille comme c'est pas possible, encore plus que d'habitude, parce que je me suis intéressé à la crise du Covid-19 elle-même, comme je me suis intéressé depuis 20 ans à la crise du climat. Il y a des points de convergence et des grosses différences entre les deux crises. Ce qui est intéressant de voir, c'est combien les économistes, depuis 3 mois, se sont massivement mobilisés pour analyser cette crise du coronavirus. On a fait un petit peu ce qu'on a fait depuis 20 ans, 30 ans sur le changement climatique, c'est-à-dire que les économistes sont allés voir pour le climat les modèles climatiques, les modèles de la physique du climat et ont introduit un certain nombre de mécanismes économiques dans des modèles dits des modèles intégrés, climat et climat-économie. Je trouve que les résultats de ces modèles sont assez extraordinaires. Je pense que l'apport des économistes dans la réflexion sur la lutte contre le changement climatique est absolument fondamental et probablement aujourd'hui, étant donné que les incertitudes climatiques se sont bien réduites depuis 30 ans, aujourd'hui les vraies questions sont les questions de l'économie, comment organiser la société pour mettre en œuvre ces politiques visant à réduire les émissions de CO2. Eh bien, on a fait la même chose depuis 3 mois, alors dans une échelle de temps complètement différente, mais depuis 3 mois, je vois partout dans le monde, en particulier aux États-Unis et en Europe, plein d'économistes qui ont essayé de se salir les mains avec les modèles pandémiques, les fameux modèles SIR, reproduction number, estimation de la dynamique de la propagation du virus, en y intégrant là aussi des dimensions économiques comme la valeur de la vie humaine ou le coût pour la société du confinement et quelle est la politique optimale en intégrant à la fois ces différentes dimensions. Voilà, je ne veux pas en parler parce que c'est un tout autre sujet, mais voilà, je travaillais encore cet après-midi sur un modèle où j'essaie d'intégrer, comme je le fais pour le climat, d'intégrer dans la COVID-19 les incertitudes auxquelles on est confronté sur la vitesse de propagation quand on déconfine avec le risque de seconde vague. J'en dirai pas plus. Ce que nous dit la crise du coronavirus pour le climat, différentes choses. Je vais prendre sur ce transparent, je vais commencer par les points positifs. Je pense que ce Covid-19 nous enseigne des choses incroyables sur les capacités des États et des opinions publiques, de la population à se mobiliser pour affronter un danger immense qui s'appelle Covid-19, avec au début de la pandémie un risque que 80% de la population soit à un moment ou un autre infectée pendant la pandémie, avec 1% de taux de mortalité, donc ça veut dire 0,8% de la population en perspective de mourir si on ne faisait rien. Et donc on a mobilisé, le gouvernement a imposé un command and control massif et en limitant les libertés individuelles avec un accord de l'opinion publique, ce qui a conduit à un résultat que l'on sait en Europe, en particulier en France, qui est assez impressionnant quand même, voir la vitesse à laquelle le virus est en train de disparaître. C'est le résultat d'une myriade d'efforts individuels et de décisions collectives. Est-ce qu'il est possible qu'on fasse la même chose sur le climat? C'est une bonne question. Je pense que on a le problème fondamental qui différencie le climat du Covid-19, c'est que dans le Covid-19, on a un sacrifice immédiat de la population qui amène un bénéfice immédiat pour la population, et même la population locale qui fait l'effort a le bénéfice local de l'effort. Alors que pour le climat, on a ce qu'on appelle la tragédie des horizons géographiques et temporels. Géographiques, les efforts que vous faites pour réduire vos émissions de CO2 bénéficient au reste de l'humanité et très 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 peu à vous-même et à votre entourage. Par ailleurs, l'essentiel des sacrifices que vous faites aujourd'hui, ils vont bénéficier à des gens qui, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas encore nés. Donc, c'est la tragédie des horizons temporels. D'autres petits enseignements de la crise sur le climat. Là je serais pas complètement d'accord avec ce que Patrice nous a dit quand même. On a confiné, regardez, super succès, on parvient à réduire les émissions de CO2 de 8% au niveau mondial pendant quelques mois. On voit bien que c'est pas par la stratégie d'une réduction de la production, de la consommation massive. On a divisé sans doute par deux la production, de la consommation pendant au début du confinement. Et c'était incroyable le sacrifice, cet énorme sacrifice. Il n'a permis que de réduire de 8% les émissions de CO2 pendant une très courte période. Donc on voit bien que si on va pas résoudre le problème climatique en décroissant, en organisant une décroissance comme on vient de le faire pour le Covid-19, ou bien si on allait dans cette direction-là, il faudrait vraiment décroître à 80%. Je ne pense pas que quiconque sur Terre a cette idée-là. On a vu aussi réaction des pays pétroliers, une manière d'interpréter le mini-contre-choc pétrolier qu'on a vécu au mois de mars, c'est aussi une vision que les pays pétroliers veulent vendre leur pétrole avant qu'il soit trop tard. Avant que les pays occidentaux arrêtent d'acheter leur énergie fossile. Donc, on a un problème. Les prix des énergies fossiles a baissé. Les prix du carbone a aussi baissé. Vous voyez qu'on a quand même quelques sources d'inquiétude liées à cette crise du coronavirus. Et puis, finalement, évidemment, cette crise du coronavirus a capté des moyens financiers, des sacrifices qu'on a demandé à la population sont allés pour lutter contre le coronavirus et la forte hausse de l'endettement public, sans doute de 20% en France en 2020, ne va inéluctablement que augmenter le problème de rareté des fonds publics pour financer cette transition énergétique. J'ai trois slides, voilà la deuxième. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette slide, elle est fondamentale, elle est expliquée en long, en large, en travers dans mon bouquin comme dans le bouquin de Christian de Pertuis. Comment organiser, oublions deux minutes la crise du coronavirus, comment organiser la lutte contre les émissions de CO2, la réduction des émissions de CO2 vaste sujet. La chaire d'économie du climat et TSE ont depuis pas mal de temps déjà évoqué l'idée que la bonne solution, c'est d'un prix du carbone. Il y a différentes manières de voir les choses. La façon la plus simple de voir les choses, c'est qu'on a un objectif politique qui a été fixé par le pouvoir démocratiquement élu. En France et dans l'Union européenne, on a une décision politique de réduire de 40% des émissions de CO2 d'ici à 2030 et d'aller à zéro émission nette en 2050. Ça, c'est une décision politique. Je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement optimale, mais je suis un démocrate et j'accepte les décisions publiques décidées par nos gouvernements qui ont été élus par la majorité du peuple. Et donc, cet objectif de zéro émission nette, elle est liée à un objectif de 2 degrés Celsius, de ne pas dépasser un delta de température de 2 degrés Celsius. Et cette augmentation maximale de la température est liée à une quantité optimale, maximale, excusez-moi, de CO2 qu'on peut encore émettre d'ici la fin des temps. Grosso modo, c'est autour de 600 à 800 gigatonnes de CO2. Rappelez-vous qu'on en émet 50, excusez-moi, gigatonnes de CO2 par an au niveau de l'ensemble de la planète. Donc, ça vous dit qu'on a plus qu'une quinzaine d'années, si on veut, à la vitesse à laquelle on émet le CO2 pour ne pas dépasser 2 degrés Celsius. Donc, nous avons un budget carbone intertemporel. Cette contrainte, nous sommes économistes, vous savez qu'il y a une contrainte quantitative sur la consommation ou sur la production, il correspond une variable duale, appelons-la le prix du carbone. Le prix du carbone, c'est le seuil maximum de coût de réduction des émissions de CO2 compatible avec cet objectif. Plus l'objectif de réduction d'émissions de CO2, plus le budget carbone est réduit, plus important doit être ce prix du carbone. Eh bien, à 800 gigatonnes qui nous restent d'ici la fin du temps, pour ne pas dépasser 2 degrés Celsius, il faudrait sans doute un prix autour de 100 euros la tonne de CO2, augmentant à 2, 3, 4% par an d'ici à 2030. Et ça, c'est compatible effectivement avec l'objectif d'émission nulle en 2050. Donc, ce prix du carbone, c'est donc un seuil maximum. Pour réduire les émissions de CO2, on a 36 solutions possibles. Vous pouvez décider de remplacer le charbon par du gaz russe dans les usines de production d'électricité en Pologne et en Allemagne. Vous pouvez décider d'inciter des ménages français à acheter plus de voitures électriques au détriment des voitures moteurs thermiques. Vous pouvez décider d'investir dans l'isolation thermique des bâtiments. Certains projets coûtent 30 euros la tonne de CO2, d'autres coûtent 500 euros la tonne de CO2, d'autres coûtent 2000 euros la tonne de CO2. Évidemment, il faut aller choisir la solution, toutes les stratégies de réduction des émissions de CO2 qui coûtent le moins cher possible. Et ça, c'est un prix du carbone qui va vous donner cette information. Donc, vous pouvez avoir, une fois que vous avez fixé ce prix interne du carbone compatible avec l'objectif politique des 2 degrés Celsius, vous avez deux stratégies possibles. Vous avez une grande famille de politiques consistant à faire du command and control. Eh bien, on va imposer une augmentation de la part des voitures électriques sur le marché des voitures neuves. On va imposer la réduction des transports aériens en obligeant Air France à fermer un certain nombre de lignes ou en augmentant son pouvoir de monopole, en les forçant à rationner l'offre. Vous pouvez faire 36 000 choses. Ça, c'est command and control. C'est possible. L'idée, c'est, si on va dans cette direction-là, c'est d'avoir un prix interne du carbone qui va permettre d'évaluer toutes ces politiques et de faire en sorte que seules les politiques, seules les obligations qui vont donner aux producteurs, aux consommateurs, à l'État de réduction des émissions de CO2, seuls ceux qui ont un coût par tonne de CO2 évité inférieur au prix du carbone devraient être mises en œuvre. Donc il y a aucune incitation, c'est vraiment le petit père du peuple qui décide ce qu'il faut faire. Moi je peux prendre l'avion de Toulouse à Paris parce que j'ai une importante conférence à donner et ça crée la création de valeur sociale est suffisamment élevée pour justifier ce voyage, alors que vous, mon voisin qui veut aller à Paris pour aller visiter, qui veut monter sur la Tour Eiffel, il devrait être interdit de ça parce que la création de valeur sociale de cette activité est plus faible que la mienne. Vous voyez, ce genre d'argument, ça va être assez compliqué, mais on peut l'imaginer de façon théorique. La deuxième stratégie, c'est celle imaginée par une majorité des économistes aujourd'hui, un vrai consensus international. Vous voyez les pétitions qui sont saignées des deux côtés de l'Atlantique sur ce sujet. C'est un prix du carbone qui est un prix qui est imposé à l'ensemble des acteurs. Donc, on n'impose pas des comportements, on donne un signal prix. Ce signal prix, c'est le prix correspondant à celui qui est compatible avec l'objectif politique des 2 degrés Celsius. C'est une politique beaucoup plus simple. Il suffit de vérifier que tout le monde affronte bien ce signal prix, soit par une taxe carbone, soit par un mécanisme de permis d'émission. Donc on n'a plus besoin d'avoir une vérification au cas par cas de qui peut émettre quelle quantité de CO2. Alors rapidement, on a eu un débat lors des Gilets jaunes sur le problème de la taxe carbone comme étant une politique fiscale régressive. C'est bien vrai, effectivement, l'élasticité revenu de la demande d'énergie fossile est inférieure à 1 en France, elle est légèrement inférieure à 1, donc c'est légèrement régressif. Ça va être difficile de contrer cet aspect indésirable d'une politique si on utilise un command and control, parce que command and control, substituer du charbon par du photovoltaïque, ça va augmenter le prix de l'électricité et donc ça va être régressif pour les consommateurs, enfin, ça va être régressif pour la société française. Par contre, si vous organisez un système de prix sans exemption, un système de prix du carbone sans exemption, vous collectez un revenu fiscal que vous pouvez utiliser pour compenser, peut-être même pour surcompenser les ménages les plus modestes. Donc la problématique de la régressivité, c'est plutôt, à mon avis, un argument qui est favorable à la taxe carbone par rapport aux autres solutions. Et finalement, dernier slide, s'il me reste 5 minutes, je suis un peu lent, excusez-moi.
Non, c'est parfait.
Merci Patrice. Différents éléments de politique actuelle. Donc on a parlé de la Convention citoyenne. Alors hélas, on arrive trop tôt, on ne va pas pouvoir commenter là-dessus parce que j'ai aucune idée, enfin j'ai quelques idées très vagues seulement de ce qui va être proposé. Donc je me permets d'analyser ce qui est déjà sur la table, mais là c'est plutôt au niveau européen. Le Green Deal européen. Bon, là, je suis largement sur ma faim. D'abord parce que, à nouveau, on est en train de parler de gros sous. Il s'agit de mettre sur la table des centaines de milliards d'euros pour financer la transition énergétique, probablement avec un endettement européen qui n'est pas idiot lui-même. Je pense que c'est bien aujourd'hui pour lancer l'économie dans une approche keynésienne d'emprunter que les États jouent leur rôle d'assureur en dernier ressort et que deux, ils utilisent leur capacité d'emprunt sur le marché international à un taux relativement faible, extrêmement faible en fait aujourd'hui, pour lisser le choc financier aujourd'hui que nous vivons aujourd'hui à cause de ce Covid-19. Ceci étant dit, faut-il utiliser cet argent pour investir dans la transition énergétique ou pour investir dans l'enseignement, pour investir sur la santé, beau sujet, ou tout autre sujet, ou tout autre projet d'investissement public, c'est une question ouverte. Je pense aujourd'hui que, enfin, je comprends pas très bien l'argument européen. Je ne pense pas qu'aujourd'hui le secteur vert, que ce soit dans le secteur électrique, que ce soit dans le secteur de transport, soit confronté à un problème de rationnement du crédit, de rationnement de l'accès aux capitaux financiers pour investir. Je pense alternativement que les secteurs verts sont confrontés à une problématique de profitabilité de ces investissements. Aujourd'hui, étant donné la faiblesse des prix du carbone au niveau européen, au niveau français, eh bien, ces projets verts qui sont socialement désirables ne sont pas économiquement profitables au niveau des entreprises et donc ne sont pas mis en œuvre. Donc le sujet n'est pas de devoir mettre des centaines de milliards sur la table. Le problème, c'est de rendre profitables des choses qui sont socialement désirables aujourd'hui, mais qui ne sont pas effectivement profitables parce que les externalités positives de ces investissements ne sont pas prises en compte par les entrepreneurs privés. Voilà, donc sur donc Green Deal problème, j'espère que ce Green Deal va être complété par un accord politique européen dans lequel on va faire monter le prix du carbone. Rien n'est moins sûr, étant donné qu'on sait que si le prix du carbone qui actuellement reste planté autour de 20 euros, dès lors qu'il passera autour de 30-35 euros, le charbon, les mines de charbon polonaises vont être fermées. Et ça, c'est un énorme problème pour la Pologne qui a un droit de veto sur la politique énergétique européenne. Donc, du coup, parlons de marché ETS. Alors c'est le problème de la du verre à moitié plein ou à moitié vide. On a la chance en Europe d'avoir un marché qui fonctionne pas trop mal, qui existe. Néanmoins, on l'a vu depuis 2005, le prix reste beaucoup trop faible pour réellement être compatible avec les engagements environnementaux, l'ambition environnementale européenne. Et en plus, ce prix est super volatile. Or, on sait bien que pour enclencher la transition énergétique, il faut que les investisseurs aient une visibilité long terme sur la rentabilité de ces investissements. Et ces investissements, ils ont des durées de vie importantes. Remplacer une centrale de charbon par des panneaux photovoltaïques, c'est des projets dont la durée de vie de l'investissement se mesure en décennies. Remplacer sa voiture thermique par une voiture électrique, c'est 10-20 ans. Donc si on n'a pas de perspective à 10-20 ans sur le prix du carbone, ben on va pas y arriver. Alors, l'Europe, depuis 5-6 ans, essaye de réformer le système en ayant peut-être un prix plancher. Je pense que tout ça est pas crédible. Je pense d'ailleurs que les politiques européens ont perdu toute crédibilité sur cette capacité à s'engager sur un chemin de prix du CO2 correspondant à ce qu'ils ont eux-mêmes décidé comme ambition climatique européenne. Donc, on a là un sérieux problème de crédibilité à long terme. Du coup, moi, ce que je propose avec plusieurs co-auteurs, notamment Jacques Delta du think tank Astérion, faisons table rase de cet échec qui nous semble assez désastreux quand même de UETS. Remplaçons-le par un mécanisme alternatif où, au lieu d'avoir des targets en quantité, ayons un target en prix. Transférons le risque des entrepreneurs vers le reste de l'économie. Engageons-nous sur une politique de prix à 30 ans en Europe. Et cet engagement, il faut le retirer des mains des politiques, parce que les politiques, à chaque crise, abandonnent tout le long terme pour se concentrer sur le court terme. Donc, faisons ce qu'on a fait pour affronter un autre problème de crédibilité politique à long terme auquel on a été confronté en Europe depuis une cinquantaine d'années, c'est le problème de l'inflation. On a résolu le problème de l'inflation qui était un problème d'engagement politique de ne pas utiliser la planche à billets en période de crise. Eh bien, faisons ce qu'on a fait pour résoudre ce problème, c'est on a donné un mandat démocratique à une institution indépendante qui s'appelle la Banque Centrale Européenne, qui a un mandat de stabilité des prix, à une augmentation de 2% des prix à 2%, mais je propose de créer une banque centrale du carbone avec un mandat de faire croître le prix du carbone de 2, 3, 4% par an. C'est une décision qui est de nature politique avec un démarrage autour de 50, 60 euros la tonne de CO2 sans exemption. Toutes les émissions de CO2 en Europe doivent être intégrées. Et en fait, ce qu'on propose pour simplifier les choses, c'est qu'on capte ce prix du carbone à la source, c'est-à-dire aux importations de carbone, de toutes les importations de carbone dans l'Union européenne et à la sortie des puits de charbon, de gaz pour les puits de gaz qui existent encore en Europe. Voilà. Donc le point crucial, c'est le remplacement d'une quantity target par un price target pour déclencher la transition énergétique de façon crédible en donnant ce price target à une institution indépendante qui aurait le contrôle de la distribution de ces permis, enfin de la vente de ces permis à un prix prédéterminé. Évidemment, ça génère un revenu fiscal pour la Banque Centrale du Carbone qui devrait évidemment la ristourner, soit directement aux pays, aux différents États, au prorata de leurs émissions, ou bien, peut-être plus intelligent, en utilisant ce revenu fiscal pour en partie compenser les pays perdants, je pense en particulier la Pologne. C'est un accord politique qu'il faut avoir, je vais terminer par là. Aujourd'hui, von der Leyen nous promet la création d'un Just Transition Fund à 50 milliards d'euros pour aider les pays, les régions en difficulté liées à la transition énergétique. Je propose plutôt que d'avant de s'engager sur un tel mécanisme, ou en tout cas qu'on combine un accord sur ce mécanisme-là par un accord sur une trajectoire carbone qui soit autrement plus élevée que celle auquel on est confronté aujourd'hui. Il faut faire un deal avec la Pologne, avec les Länder de l'Est de l'Allemagne et les autres pays charbonniers de l'Union européenne. Un deal qui organise un transfert vers les régions perdantes, en particulier les régions charbonnières, contre un accord sur un prix du carbone qui démarre autour de 50-60 euros la tonne de CO2 aujourd'hui et qui augmente de 4% par an. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Christian. Il y a différentes questions, mais qui ont un caractère suffisamment générique pour je les garde pour la fin, parce que je suis persuadé que Christian de Pertuis aura également des idées. Ça te permettra d'en prendre connaissance et de prendre un peu d'avance sur les réponses. Néanmoins, moi, j'utilise ma position privilégiée. Alors, d'une part, pour faire une observation, évidemment, j'ai pas considéré que ce qu'on observe depuis 3 mois est la solution en termes d'émissions de CO2. Simplement, et Christian de Pertuis va en parler tout de suite, je crois que c'est sa première ou deuxième slide. On est dans une période un peu étrange qui correspond à chaque crise durant laquelle on voit cet effondrement, mais qui évidemment ne modifie pas fondamentalement la relation entre PIB et CO2, qui reste soit croissante lorsque le PIB augmente ou qui s'inverse, mais qui fondamentalement ne modifie pas la donne. En plus, nous Français, et vous Belges aussi sans doute, on va se rendre compte assez rapidement que tout ça nous aura coûté 20 points de PIB au bas mot, donc ça, ramené à la tonne de CO2 évitée, ce sera sans doute assez lourd. J'avais néanmoins une question au-delà de cette observation, puisque tu as fait référence, et on y reviendra sans doute avec Christian de Pertuis ensuite, à la taxation du carbone. Se posent à l'heure actuelle quand même des problématiques qui sont des problématiques qui renvoient à la capacité à faire masse, à avoir une politique industrielle, et notamment pour nous, Européens. Et je sais que parmi les participants, par exemple, il y a un très bon connaisseur des questions d'hydrogène. D'où la question suivante. Est-ce qu'on peut imaginer que, à partir de 2030 et au-delà, l'Union européenne soit un des points de leadership dans le domaine de l'économie de l'hydrogène, simplement en utilisant, et je suis agnostique à cet égard, le levier du prix du CO2, ou est-ce que tu penses qu'il faut combiner tout ça avec d'autres leviers politiques?
Donc, il y a un sujet dont je n'ai pas parlé, où je n'en ai parlé qu'incidemment ou implicitement, c'est le fait que, comme je le disais tout à l'heure, le plus gros des actions nécessaires pour réduire nos émissions de CO2, ce sont des investissements à durée de vie longue. et des investissements dans des, qui seront produits par des technologies nouvelles. On a commencé à faire les photovoltaïques et l'éolien il y a 10 ou 20 ans parce qu'on a fait des innovations technologiques à ce moment-là, et ces innovations technologiques étaient eux-mêmes la conséquence de recherche et développement et de progrès scientifiques tout au long du XXe siècle. Quand on regarde aujourd'hui les coûts par tonne de CO2 évitée des technologies en présence, force est de constater que si on devait basculer aujourd'hui rapidement dans une décarbonisation rapide, ça coûterait très très cher. Donc on est extrêmement dépendant des perspectives de progrès techniques, notamment probablement dans le domaine de l'hydrogène. Je pense en particulier à l'avion, à la promesse d'un avion non émetteur en 2035. Et on sait que cette R&D, elle génère elle-même des externalités, en plus que de produire une création de valeur sociale parce qu'elle va permettre de réduire les coûts d'abattement, cette R&D va aussi générer un certain nombre de side effects positifs, peut-être d'autres découvertes en avalanche. Et ça, les innovateurs eux-mêmes ne sont pas capables de capter cette création de valeur. Et donc, ils ont une trop faible incitation pour y arriver. Je fais référence là aux travaux de Philippe Aguillon. Et puis, en plus, on risque d'avoir, si on ne fait pas un soutien spécifique justifié par ces externalités positives de R&D, on risque de rester, comment dire, stuck en anglais, de rester coincé dans une économie brune. Et donc, on a besoin d'enclencher une économie verte, un vertissement de l'économie. Et ça justifie d'autant plus une des subventions directes à la R&D des technologies les plus prometteuses. Probablement que l'hydrogène se trouve dans cet ensemble, mais je ne suis pas spécialiste.
Merci beaucoup. Donc je t'invite à jeter un œil aux questions, et on passe la parole à partir de maintenant à Christian de Pertuis. Et donc Christian, tes slides doivent s'afficher.
Merci beaucoup à tous. Merci à l'Association des économistes de l'énergie d'avoir organisé cette rencontre encore à distance. Moi, je suis absolument ravi d'avoir cette opportunité nouvelle, parce qu'on se rend compte quand même de temps en temps, de dialoguer avec l'autre Christian Gaulier. Bon. Je partage une partie, évidemment, de ses analyses sur le prix du carbone, mais comme il vous l'a un petit peu annoncé tout à l'heure, je crois qu'une des grandes différences entre Christian et moi, c'est que je pense que la tarification carbone n'est là que pour faciliter une partie des transitions que nous devons faire pour à la fois faire face aux risques climatiques et aux risques sanitaires et aux risques pandémiques. Alors, peut-être avant d'aborder directement la question climatique, je voudrais dire deux mots sur un peu ma vision de qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques mois. Je pense que la première des choses qu'on voit dans l'évolution récente, c'est qu'il y a eu en réponse à l'attaque du coronavirus, une sorte de mise à l'arrêt de l'économie qui a été déclenchée par les gouvernements. Et je trouve que l'un des très bons papiers qui a expliqué ça, c'est justement le papier de Christian Gaulier avec Stéphane Straub, qui s'appelle « L'économie du coronavirus, quelques enseignements ». Je trouve que c'était un papier très bien fait. Cette mise à l'arrêt, je voudrais dire quand même qu'elle est tout à fait exceptionnelle. Je pense que je suis étonné qu'on ne réfléchisse pas plus là-dessus. C'est la première fois que face à un risque sanitaire global, il y a eu une réponse aussi systématique. Et même ceux qui ne voulaient pas de ce type de réponse, j'ai en tête un certain nombre de chefs d'État, mais ils ont été obligés de passer par des mesures de confinement. Je pense que c'est une situation très différente de celle qu'on a vécue, par exemple, lorsqu'il y a eu la crise des pandémies antérieures, en 1957, il y a eu 2 millions de morts. On n'a pas mis le monde à l'arrêt. En 68, lors de la dernière grande pandémie, il y a eu 1 million de morts. Donc je pense que le fait qu'on réagisse comme ça dans le monde révèle une perception nouvelle du risque sanitaire, et derrière le risque sanitaire, je pense, une perception nouvelle des risques globaux. Deuxième point, on a mis à l'arrêt la circulation des personnes et des marchandises. Mais la circulation des informations s'est complètement accélérée. Et donc, je crois que la crise du coronavirus est aussi un accélérateur incroyable de la numérisation de l'économie. Et je crois que cette donnée est extrêmement importante pour construire ensuite les bonnes stratégies, tant vis-à-vis du risque climatique que du risque sanitaire. Il y a des côtés extrêmement favorables, il y a des côtés un peu plus inquiétants, qui sont le type de régulation qu'on peut avoir sur cette économie numérique, hein, ce que certains appellent le capitalisme viral. Le troisième point, quand même, qui est tout à fait frappant, Christian y a fait allusion, c'est qu'on a en quelques semaines une économie dans laquelle l'État ou les États ont pris le contrôle. Et en même temps qu'ils ont pris le contrôle, comme ils ont mis à l'arrêt, ils ont été obligés d'empiler les coussins amortisseurs pour éviter que ça chute trop. Et donc, on a un problème de stabilisation financière des États, puisque la croissance de la dette publique, à un moment, il va falloir la payer. Et la planche à billets, c'est quelque chose d'extrêmement efficace à court terme. Il fallait le faire, évidemment, il faut continuer à le faire, mais la question se pose, c'est qui va payer ça ? C'est bien quelqu'un qui va payer. Et comme la planche à billets ne déclenche plus les formes classiques d'inflation qui étaient formes d'impôts indirects sur les rentiers, ben, ça va être compliqué. Donc voilà, si vous voulez, sur le plan global. Alors moi, je pense que ce Covid-19 va déclencher des réactions extrêmement importantes qui vont accélérer les transitions en matière d'action sur les émissions de gaz à effet de serre. Et Patrick, si tu peux passer mon premier slide. Je pense que lorsqu'on regarde ces courbes à long terme, on voit qu'on se limite aux émissions de CO2. Hein, donc, je rappelle que les émissions de CO2, ce n'est pas la totalité des gaz à effet de serre, c'est à peu près 70%. Hein, le reste étant principalement du méthane et du dioxyde d'azote, dont je dirai deux mots tout à l'heure. Lorsqu'on regarde ces courbes sur un peu plus d'un siècle, hein, puisque ça part en 1900, vous voyez que on a deux grandes catégories de CO2, hein, le CO2 d'origine fossile auquel s'ajoute le processus de ciment, c'est la courbe en bleu. On voit que jusqu'à présent, depuis 1945, hein, la courbe en bleu s'est détachée de la courbe en rouge, dont je dirai un mot tout à l'heure. Et chaque fois qu'il y a eu une baisse des émissions, ben, on a eu l'impression que c'était un choc extérieur, choc pétrolier, dislocation de l'URSS, crise financière de 2009. Et puis après, ben, après quelques années, ou même assez vite après la crise de 2009, ça repartait. Et puis on voit que jusqu'à présent, les politiques climatiques globales, hein, on semblait ne pas avoir une grande influence sur la forme de la courbe. Alors je pense que cette vision, elle est évidemment cruelle, parce qu'elle montre l'ampleur de ce qu'il y a à résoudre. Je pense qu'elle est en partie fausse, parce que si on regarde les chocs qui ont eu lieu, on s'aperçoit que chaque fois, il y a des trajectoires d'émissions de CO2 qui ont été durablement infléchies par les chocs. Pas la trajectoire globale. Les chocs pétroliers des années 70 et début des années 80 ont totalement modifié la trajectoire européenne. Le pic d'émissions de CO2 européen, c'est 1980. Le choc de la dislocation du RSS a également été un pic d'émissions, hein, sur tout le bloc des économies soviétiques de l'époque. Et le choc de la crise financière de 2009, eh bien, si vous regardez la trajectoire de CO2 des États-Unis, vous verrez que le pic, c'est 2007. Donc moi, je crois que jusqu'à présent, lorsqu'il y a eu des chocs extérieurs, il y a eu des réactions en chaîne qui ont durablement modifié certaines trajectoires et pas d'autres. Et le pari que je fais, c'est que la crise du Covid-19 va entraîner une baisse des émissions qui est beaucoup plus forte, hein, que précédemment. Bon, le chiffre de 8% qui est cité est celui de l'AIE. Moi, j'ai fait des petits calculs de points de table. Ça tombe bien, l'AIE est pile au milieu de ma fourchette, mais je n'exclus pas que la chute soit plus brutale, parce que on n'est pas encore sorti de la pandémie et la remise en route de l'économie. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de chances pour que la partie de CO2 qui est liée à l'énergie fossile va, au contraire, très fortement réagir à la crise du Covid. Et je vous expliquerai dans un instant par quel mécanisme. prix du CO2 étant évidemment quelque chose qui permettrait d'accélérer. L'autre volet, c'est la courbe en rouge, hein, qui est ce qui est généré en gros par la déforestation, plus précisément par les changements d'usage des sols. Là, on rentre dans le carbone vivant. Si on voulait être complet, il faudrait rajouter à ces courbes de carbone vivant le méthane et le protoxyde d'azote lié à l'agriculture. Et là, cette courbe n'a pas du tout été affectée hein, par la crise du Covid-19. Elle a même peut-être été accélérée. Hein, on voit que au Brésil, parce que le confinement concerne essentiellement la partie de la population vivant dans les villes, les centres urbains. Et dès qu'on va dans des zones éloignées, des centres urbains, décentralisés, le confinement ne joue pas beaucoup. Et quand on regarde la mise à l'arrêt des exportations de marchandises, par exemple, ça ne concerne que les biens industriels. Les biens agricoles ont continué à être produits et délivrés durant cette période, y compris à l'exportation. Je pense que cette partie du carbone vivant est probablement une partie extrêmement importante à moyen terme en conséquence de la crise du Covid-19, car on a un peu tendance à considérer cette crise comme tombant quelque part. Non, hein. La répétition des maladies de type Covid ou coronavirus ou des maladies transmissibles comme ça reflète la façon dont on utilise mal le milieu naturel et un certain rapport au milieu naturel qui accentue le risque de transmission des virus du monde animal vers le monde humain. Donc ça, c'est la première vision. Donc je voudrais un peu éclairer ce diagnostic en utilisant mon deuxième slide, Patrick, et ce sera du reste le seul que je vais parler. Je pense que pour bien comprendre ces enjeux, le mieux à faire est au fond de se référer au tic-tac de l'horloge climatique et de reprendre les trois éléments clés. L'urgence climatique, neutralité carbone, justice climatique. Alors l'urgence climatique, Christian a déjà parlé tout à l'heure, elle est complètement différente de beaucoup d'urgences puisque ce qui provoque le réchauffement, c'est le stock de gaz à effet de serre qui est dans l'atmosphère et donc on n'agit pas directement sur ce stock. Hein, il y a une extraordinaire inertie de ce stock. Hein, une baisse de 8% des émissions mondiales ne ralentit que très marginalement la croissance du stock, qui est le vrai driver du réchauffement. Et donc, ça renvoie à la question de la temporalité et de la tragédie des horizons. Mais je pense que ce que nous montre le Covid-19, c'est deux choses. Premièrement, la vitesse de circulation du virus et l'ampleur des risques sanitaires est très directement lié à la vitesse de circulation des hommes et des marchandises dans une mondialisation très, très rapide. Et donc, au type d'organisation industrielle qu'on a, et je crois que la façon dont on a réagi présage hein, d'ajustements qui vont aller vers effectivement des formes différentes d'organisation des chaînes de valeur avec moins de just-in-time, de choses comme ça. Et plus de régulation de la mondialisation. Ça, c'est pour la partie CO2 fossile. Deuxième point, c'est que la cause de transmission, la cause d'apparition de la pandémie n'est pas exogène. Elle est endogène à notre façon dont on traite la nature, le milieu naturel. Il faut se référer, par exemple, excellents travaux qui ont été publiés par le Muséum national d'histoire naturelle. Et donc, ce que nous montre aussi la crise du coronavirus, c'est que si on veut avoir une stratégie face à l'émergence répétée et croissante de nouvelles pathologies, il faut modifier beaucoup plus profondément la façon dont on traite le carbone vivant. Il faut protéger la biodiversité, parce que c'est la biodiversité qui est le principal facteur de stockage du CO2, et quels que soient les projets qu'on peut avoir de CCS, CCSU, l'enjeu du stockage du carbone, c'est d'abord la sauvegarde de la biodiversité du milieu naturel, et la protection de la biodiversité sauvage est extrêmement importante pour le stockage du CO2, et elle est extrêmement importante pour la lutte contre les risques d'épidémie. Deuxième point, neutralité carbone, c'est tout petit peu ce que je viens de dire. Pour viser la neutralité carbone, il y a deux grands volets de l'action, la transition énergétique, le carbone vivant. La transition énergétique, je vais être très rapide. Pour moi, l'essentiel, c'est de voir qu'il s'agit de basculer d'un système énergétique qui se construit depuis un siècle et demi dans une logique de l'empilement. On ajoute des sources d'énergie les unes aux autres vers un système substitutif où de nouvelles sources ou de nouveaux facteurs d'efficacité vont permettre de sortir trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz du système. Donc il faut viser cette substituabilité. Et la raison pour laquelle le prix du carbone est à mes yeux un instrument extrêmement efficace, c'est parce que le prix du carbone, renchérissant le coût d'usage des fossiles, accélère cette sortie du fossile qui est véritablement la première jambe de l'action climatique. Deuxième face, la protection du milieu naturel, l'agroécologie, la lutte contre la déforestation, qui est représentée là par un magnifique œuf. C'est pas un charolais, c'est un mouvement. Ça renvoie fondamentalement à la façon dont on organise notamment la production alimentaire, l'agriculture, l'élevage. Comment est-ce qu'on peut développer des pratiques agro-écologiques qui sont des pratiques d'agriculture intensive, car on ne va pas nourrir la planète en faisant de l'extensif, mais qui permettront de limiter cette extension de l'emprise des terres agricoles et des terres d'élevage sur les milieux naturels fragiles, et qui permettront aussi à l'intérieur du système agricole de réduire les émissions de méthane, les émissions de N2O, et surtout d'avoir des pratiques agricoles qui permettent également de stocker du CO2. Je pense que l'Europe est beaucoup plus avancée sur à la fois les instruments et le développement de la transition énergétique bas carbone que sur ce second volet d'agroécologie qui, à terme, je pense, est aussi important que la transition énergétique. Pour y arriver, il faut évidemment pouvoir avoir une adhésion sociale forte. On a vu que, Christian l'a dit, la lutte contre la pandémie a généré de multiples formes assez incroyables d'adaptation, de solidarité nouvelle entre les personnes, mais ça a aussi montré combien les inégalités sociales sont terribles pour affronter les risques globaux. Donc je pense que la justice climatique va devenir clairement une condition majeure de l'accélération de l'action contre le réchauffement climatique. Ça veut dire deux choses. Enfin, je résume un peu, mais comme je vois mon chronomètre qui tourne, je voudrais aller vite à la conclusion, qu'on puisse un peu discuter après. Ça veut dire que pour moi, la question majeure de la taxe carbone et de l'extension du système d'échange de quotas, bon, moi j'avais fait une proposition en 2012 à une banque centrale du CO2, donc pour moi, ce n'est pas une question de gouvernance. La vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de faire des taxes carbone redistributives à l'intérieur de l'Europe et vis-à-vis de l'extérieur? C'est ça, pour moi, la vraie question. Parce que je vois bien que le levier de la tarification du carbone présente une particularité tout à fait positive dans le contexte actuel, c'est que ça permet de rapporter de l'argent et pas d'en dépenser, souvent inutilement. Bon. Si on n'est pas capable d'utiliser cet argent avec des modes redistributifs qui permettent d'avoir à la fois l'acceptation sociale et à la fois l'acceptation des pays qui sont les plus durement touchés, on n'ira pas très loin. Et puis je pense qu'au-delà de cet aspect d'une taxe carbone redistributive, il y a une vision qui est en train d'émerger, qui est celle d'un revenu minimum d'existence, ou même d'un socle minimal d'existence, qui est, je crois, l'une des conditions à remplir pour pouvoir résister quand il y a un choc sanitaire, qui est aussi une condition pour pouvoir faire les transitions énergétiques et autres qui sont à faire. Et dans ce socle minimum, je pense qu'il y a un peu deux volets. Il y a un volet monétaire, puis il y a un volet qui est... Un volet d'accès aux services essentiel au service minimum, un volet d'accès au service minimum de santé publique, un volet d'accès au service minimum d'énergie. Donc voilà un peu, si vous voulez, mon interprétation des choses. Donc moi, je ne serais quand même pas aussi pessimiste que Christian. Notamment, je trouve que sa présentation d'une Europe qui n'aurait rien fait sur la transition énergétique parce qu'elle n'avait pas correctement géré son système ETS me paraît excessive. Hein. Le système ETS a été totalement laissé à la dérive entre 2010 et 2017. C'est un scandale. Ça a été totalement laissé à la dérive parce qu'au moment de la crise de 2009, on n'a pas été capable de rehausser l'ambition des climatiques, de rehausser les émissions. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que je pense que le Covid-19 a accéléré simplement la transition énergétique qui a déjà démarré. C'est une question de rythme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le bon rythme. Et le prix du carbone, c'est le bon. Donc en conclusion, puisqu'il faut que je fasse ma conclusion, je ferai une conclusion un peu sur l'Europe, justement. En donnant à la fois mes points de convergence et mes nuances hein, par rapport à ce qui a été dit. Un, je pense que Christian a totalement raison, la crédibilité du Green Deal va dépendre de la capacité européenne à mettre en place les instruments et à rénover vite son système de tarification du carbone en l'élargissant et en le gérant beaucoup mieux. Deux, je pense que dans le programme d'investissement, il y a un équilibre qui n'est pas du tout réalisé entre la partie un peu bizarre de ce qu'on appelle soutien à l'investissement vert, 1000 milliards d'investissement vert, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? On ne sait pas très bien, d'autant plus qu'on ne sait pas définir le vert. Et puis 100 milliards sur les mécanismes de qu'on appelle transition juste. Hein, bon. Je pense que ce qui est très difficile à gérer dans cette transition bas carbone, c'est qu'à la fois il faut investir plus et désinvestir des fossiles. Donc il faut organiser cette transition. Donc je pense qu'il faut beaucoup plus d'argent sur tout ce qui est reconversion. Alors c'est peut-être pas 1100 dans l'autre sens, mais c'est beaucoup plus pour les actions de reconversion. Par contre, dans l'investissement public, je pense qu'il n'y a absolument plus besoin d'investissement public sur tout ce qui est, en gros, basculement vers la production d'énergie électrique bas carbone. Hein. On sait faire. Hein. C'est quand même dans le monde pas loin de 40% des émissions mondiales, donc c'est considérable. Par contre, il y a besoin de R&D verte pour, effectivement, comment est-ce qu'on va fabriquer de l'acier ou du ciment zéro carbone. Là, il y a quand même besoin de choses. Trois, la question des frontières, de l'ouverture aux frontières, etc. Je suis assez inquiet quand même par les réactions un peu excessives. On se dit, bon, voilà, on va démondialiser, on va reconstruire bon, il y a évidemment des changements dans les chaînes de valeur internationales et des relocalisations qui doivent être faites, c'est évident. Mais je pense que laisser les frontières ouvertes est évidemment une condition majeure à la fois pour lutter efficacement contre les risques sanitaires. Je rappelle que le Covid-19, pour l'instant, il circule beaucoup plus lentement chez nous. Il n'a pas fini de circuler dans le monde. Et évidemment, tant qu'il continuera à circuler quelque part dans le monde, on risque de le retrouver. Bon. Et puis, la question de la taxe aux frontières qui a été évoquée. On ne va pas rentrer dans le débat technique, hein, si vous le voulez bien, mais je peux, hein, parce que c'est une question que j'ai pas mal travaillé.
On risque de manquer de temps.
Voilà, mais je pense que la vraie question est politique. Et la vraie question, c'est est-ce que l'Europe est capable d'avoir une vraie doctrine en matière de commerce international et de subordination des règles de liberté du commerce par rapport à la priorité climatique ou par rapport aux priorités sanitaires? On le fait plutôt mieux pour les priorités sanitaires, du reste que pour les priorités climatiques. Et quel que soit le système sophistiqué de taxes aux frontières qu'on peut mettre en place, ça ne permettra pas de remplacer la nécessaire affirmation d'une politique commerciale qui subordonne la liberté du commerce aux objectifs climatiques et qui donc prohibe d'un côté les concurrences basées sur le bas carbone et qui, de l'autre, vise à étendre les instruments de tarification du carbone et de régulation du carbone. Enfin, dernier point, je pense que dans le programme de relance et dans le Green Deal, la partie carbone vivant est mentionnée un peu comme une annexe secondaire, sur lequel, à vrai dire, on ne sait pas très bien quoi faire autrement que à faire des bonnes déclarations d'intention sur la réforme de la PAC. C'est très commode parce que, en réalité, la réforme de la PAC depuis 10 ans vise à essayer de s'occuper plus de l'environnement. Bon, je pense que là, l'enjeu est absolument majeur. Et pour l'instant, contrairement à la partie énergétique, on est loin d'avoir les instruments pour concilier une reprise économique avec le respect de la santé des milieux naturels. Et c'est en respectant la santé des milieux naturels, des écosystèmes, qu'on va mieux protéger notre propre santé et qu'on va réduire également demain le carbone qui est dans l'atmosphère grâce à une meilleure fonction de captage et stockage du CO2 par le milieu naturel. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Christian. Avant d'en venir de prendre les questions, je laisse la possibilité à Christian Gollier éventuellement de revenir sur ce que tu as dit, parce que tu as souligné des points de convergence pour l'essentiel, quelques points de divergence. Donc, Christian Gollier, si tu veux réagir.
Oui, juste peut-être sur un point spécifique, il est important. On n'arrivera jamais à court terme, on n'arrivera pas à avoir un prix du carbone compatible avec les ambitions politiques européennes. Ça me paraît assez clair, il en faudra peut-être 5 ou 10 ans pour y arriver, si on y arrive un jour. Donc, ça veut dire qu'il faut un plan B. Et le plan B, je l'ai explicité dans ma slide du milieu, c'est command and control. Et dans le command and control, il y aura… j'espère, création d'une instance indépendante capable d'évaluer les politiques publiques environnementales, notamment toutes les politiques environnementales qui sont dans la zone du carbone vivant, comme tu l'indiques, Christian. Je comprends bien que pour le carbone vivant, appliquer un prix du carbone et laisser les acteurs jouer leur musique individuelle va être hyper compliqué, notamment parce que on n'est pas capable d'observer les émissions, hein, et on peut pas pricer les inputs, ou ça paraît pas difficile de tarifer les inputs en y intégrant une taxe, un prix du carbone correspondant à ce que les inputs vont produire comme output. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Donc il faudra du command and control, il faudra une modification des comportements des agriculteurs basée sur d'autres choses que des signaux prix, et ça c'est le plan B, mais ça n'évite pas, et c'est ça que je veux dire, c'est ça qui me paraît important. On mélange prix du carbone et taxe carbone. On peut avoir un prix du carbone sans avoir une taxe carbone. Je pense qu'il est indispensable d'avoir un prix du carbone, dire au fond quelles sont les actions qui méritent qu'on les fasse, les actions qui permettent de réduire les émissions de CO2, et le prix du carbone donne le seuil maximum de prix de coût qu'on va accepter. Et ça, il faut le mettre en œuvre pour le carbone vivant dont on n'est pas capable de le piloter à travers un mécanisme de signal prix.
Si je peux dire deux mots en réponse, oui, hein, sans vouloir monopoliser. Bon, je pense que la raison pour laquelle on ne peut pas tarifer le carbone vivant n'est pas uniquement une question de mesure. C'est évidemment l'une des raisons. C'est qu'au fond, la valeur, quand on a une extinction d'une espèce, la valeur d'une espèce n'a de valeur qu'en liaison avec l'ensemble des autres espèces. Donc, il n'y a pas de substitut. Donc, je pense qu'effectivement, on mettra, même si on essaye de trouver des façons de valoriser la biodiversité, je pense qu'on n'arrivera jamais à avoir. Sur la partie gestion énergétique, moi, je ne suis pas si sûr que ça que ce que tu dis sur le fait qu'il faut un prix du carbone, c'est évident. C'est qu'au lieu de faire des taxonomies vertes complètement abracadabrantesques, on va essayer de trouver à partir de nomenclatures de produits qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui est vert. Le CO2, c'est beaucoup plus simple de s'interroger sur qu'est-ce qui émet en tonnes de CO2 chaque secteur, si on est bien d'accord. Bon, là, je te suis à 100%. Par contre, je pense que dès qu'on cause un petit peu sur la politique énergétique et la transition bas carbone, je dirais que de moins en moins, il y a besoin d'un prix du CO2 sur tout ce qui est développement des énergies renouvelables, du stockage d'électricité, des réseaux énergétiques, parce que ça devient compétitif vu les incroyables baisses de coûts. Donc, le prix du carbone va surtout être utile pour investir dans les procédés bas carbone dans l'industrie. Et je pense que c'est là où il y a une question. Est-ce que cette tarification du carbone, et c'est la question que posait Patrice tout à l'heure, est-ce que la promesse d'un prix du carbone dans 20 ans avec le système de la Banque centrale du contrat long terme, qui est le système en fait, est-ce que cette promesse d'un prix du carbone à 20 ans est suffisante pour faire les investissements de recherche, développement et les pilotes industriels, ou est-ce qu'il faut aussi une politique de pilotes industriels? Moi, je pense qu'il faut un peu les deux. Je pense qu'il faut que surtout l'Union européenne perde cette extraordinaire naïveté qu'elle a eue depuis 20 ans en matière de politique énergétique, en se disant qu'en agissant sur la demande, on faisait tout le boulot et en laissant chaque fois une grande partie des marchés, des implications industrielles à d'autres industriels situés en dehors de l'Europe, et pas toujours en Chine, du reste, hein, parce que pas toujours des Chinois, mais il y a beaucoup d'autres acteurs.
Alors, on en vient aux questions que j'ai essayé de packager. Alors, il y en a une assez large, on ne peut pas vous faire reproche de ne pas avoir les détails de l'information. Je trouve que l'AIE vient de produire toute une série de recommandations, un investissement de 1000 milliards par an.
Encore 1000 milliards.
1000 milliards par an sur 3 ans, susceptible, alors je laisse de côté les emplois créés, mais de réduire les émissions de CO2 de 4,5 milliards de tonnes par an. Il se trouve qu'il y a 30 mesures et on nous interroge sur ces 30 mesures. Je mets de côté cette question et j'invite à les membres de l'assistance à aller télécharger le rapport qui est gratuit. En revanche, on nous interroge sur le CCS, sur le nucléaire, étant entendu qu'on a déjà dit deux mots sur l'hydrogène. Si vous avez des choses à dire sur ces filières, vous avez l'un ou l'autre la parole. Christian Depertuis, j'imagine, on te demande plus précisément comment est-il possible de faire une agroécologie intensive, puisque c'est ce que tu as évoqué, sans réduire la biodiversité.
Sur le nucléaire, il y a deux externalités. L'une positive, le nucléaire n'émet pas de CO2, donc le kilowattheure, il est vert de ce point de vue-là. Une externalité négative, l'aval du cycle, la gestion des déchets. Une partie de cette externalité négative, la gestion des déchets et du démantèlement des centrales, est déjà prise en compte dans le prix du kilowattheure, puisque les opérateurs sont obligés de provisionner ces dépenses futures dans leur compte. Alors, est-ce que c'est parfaitement fait? C'est une bonne question. Hein. Problématique du taux d'actualisation, j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, la gestion du nucléaire n'est pas trop mauvaise. Il y a la prise en compte des externalités positives et négatives dans les décisions des entreprises d'investir dans le nucléaire ou de ne pas investir dans le nucléaire. La seule chose qui est dommage, je ne reviens pas, c'est que le prix du carbone soit trop faible, mais peut-être aussi que les provisions pour démantèlement et gestion des déchets de longue durée est aussi un petit peu manquante. Donc peut-être que tout dans tout, on n'est pas loin des bonnes incitations.
Je voulais dire que sur le nucléaire, il faut quand même rajouter dans les externalités négatives les risques sur la sécurité. Ils sont très difficiles à évaluer, mais oui. il faut quand même intégrer.
J'avais oublié ça, tout à fait.
Je pense qu'il faut quand même, en logique capitaliste aujourd'hui, investir dans du nucléaire pour du profit. Moi, ce que je vois, c'est que le nucléaire, il est développé uniquement dans des endroits où on le fait hors calcul économique. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat du nucléaire. Sur l'agroécologie, je pense qu'il y a une assimilation qui est très dangereuse et qui est faite souvent dans les milieux urbains qui ne connaissent pas du tout les questions agricoles, entre agriculture extensive et agriculture qui respecte la nature, et agriculture intensive et agriculture qui détruit la nature. En réalité, quand vous vous intéressez au système agricole, vous apercevez que c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez des systèmes extensifs qui sont terriblement destructeurs de la nature. Par exemple, la céréaliculture extensive dans les zones semi-arides aux États-Unis ou au Maghreb, hein, qui ont été des calamités pour le milieu naturel. Et vous avez des systèmes d'agriculture intensive qui peuvent être, au contraire, très respectueux du cycle naturel. Donc, il ne faut pas... Le basculement vers l'agroécologie, à mes yeux, consiste à développer des pratiques agricoles et des pratiques d'élevage qui vont utiliser les cycles naturels pour optimiser le rendement à l'hectare. Alors, je donne quelques exemples parce que, comme ça, vous allez me dire, il est illuminé le bec. Non, je ne suis pas illuminé du tout et je connais pas mal les systèmes agricoles. Vous passez d'une protection phytosanitaire à base de produits chimiques au biocontrôle. C'est-à-dire que vous allez utiliser les complémentarités du capital naturel pour gérer vos attaques d'aventices ou vos attaques d'insectes. C'est beaucoup plus compliqué, techniquement. C'est beaucoup plus compliqué parce que vous êtes sur du vivant. Et le vivant est toujours beaucoup plus compliqué à traiter que le mort. Bon, ça, c'est un exemple. Deuxième exemple qui est très important, le lien entre production animale et production végétale. On a spécialisé les systèmes agricoles en Europe, et particulièrement en France, avec d'un côté des systèmes animaux souvent intensifiés de façon totalement excessive, où il n'y a plus de sol, et puis on a vidé d'autres zones complètement de l'animal. Si vous voulez. Donc restituer une complémentarité entre l'animal et le végétal permet des formes très différentes de complémentarité dans le capital naturel et permet d'avoir des intensifications à l'hectare qui sont beaucoup plus respectueuses du cycle naturel. Donc, c'est ça, je pense, qui est le principal point. Je dis un dernier mot quand même pour bien vous comprendre, je ne sais pas qui a posé la question. La déforestation, les principaux moteurs de la déforestation au Brésil, c'est de l'agriculture extensive. C'est bien pour ça qu'on abat autant de, qu'on brûle autant d'arbres pour les transformer en herbage ou dans le Corrado en champ de soja, c'est qu'on va basculer vers de l'extensif et pas vers de l'intensif. Et les projets, j'ai lu une thèse très passionnante sur l'arrêt de la déforestation au Brésil, les projets pour freiner cette déforestation, ça consiste à changer les systèmes agricoles sur les fronts de déforestation en intensifiant. Pour que les agriculteurs puissent générer plus de revenus à l'État et moins d'empiètement sur la forêt.
Merci Christian. Je vous propose de passer, Anna, je te propose de prendre la parole pour partager avec vous nos secrets de back-office. On a une petite incertitude.
C'est quoi cette affaire ?
Tout pourrait s'interrompre brutalement à 18h45. Donc, par précaution et par avance, je vous salue toutes et tous et je donne la parole à Anna. Et je vous invite à aller regarder les mesures de la Convention citoyenne qui viennent d'être dévoilées. Il y a notamment un article du Monde à l'instant et qui vont être discutées durant le week-end et votées jusqu'à dimanche matin. Anna.
Merci Patrice, merci à tous. C'est effectivement en quelques secondes, je vais conclure ces débats très intéressants et je pense justement que la notion du temps et du temps que nous n'avons pas est cruciale. Sous les différents aspects et j'étais passionnée par ces débats à la fois sur des grandes idées mais à la fin on a beaucoup dédié d'échanges aux solutions, même les questions en fait sont vraiment sur les solutions et je pense que c'est là notre défi aussi en tant qu'économiste et la palette en fait d'interventions qu'il faut faire, de conseils, de soutien aussi aux politiques est très vaste et je pense que nous avons devant nous des temps encore très difficiles d'une part mais porteurs aussi de nouveautés et j'espère donc que on aura l'occasion de revenir sur ces questions et qui sont en fait des thèmes que nous développons à la chaire économie du climat et nous sommes une communauté d'économistes assez convaincu de l'utilité de regarder à la fois l'énergie, l'agriculture, les carbones vivants, les réglementations, la R&D, Donc, je vous invite à suivre sans doute les implications de ces débats dans notre actualité.
Très bien. Écoutez, c'est merveilleux. On a passé le cap de 18h45 et ça n'a pas coupé. Donc, ça va nous permettre, et Christophe va nous dire quelques mots également, de vous remercier. Mille excuses pour tous nos amis qui étaient présents et dont je n'ai pas pu prendre les questions. Mais évidemment, c'est lié à la qualité des deux interventions de Christian Gollier, Christian de Pertuis et moi, à ma très mauvaise gestion du temps. Christophe, si tu veux dire quelques mots de conclusion.
Deux mots, mais je ne voudrais pas que mon mot apparaisse comme une question qui relance un débat. Le Covid a mis en évidence un sujet qui est la question des relocalisations que vous avez abordé, qui est très intéressant et qui pose la question de la sécurité d'approvisionnement pour amener une chaîne de valeur qui se trouve ailleurs dans le monde, et aussi les questions de compétitivité, parce que les coûts de production selon les endroits où on produit ne sont pas les mêmes. Et en plus, les contenus en carbone selon les endroits où on produit ne sont pas les mêmes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un nouvel arbitrage entre les mains des États qui revendiquent une indépendance nationale, voire géographique? C'est une question qui a été abordée, mais qu'on pourrait regarder sous l'angle « je suis aux commandes de l'État, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ?» Quel arbitrage je fais entre sécurité d'approvisionnement et compétitivité et contenu en carbone? Mais bon, ça, c'est peut-être un débat un peu long. Je ne vais pas en dire plus. Juste pour remercier la chaire d'avoir co-organisé avec l'AE ce bel événement. On pourra en faire plus souvent. Et voilà, donc merci à tous et je vous dis à bientôt.
On peut lancer l'idée d'un débriefing autour des conclusions de la Convention citoyenne qui va être un moment important. Là, il se trouve que j'ai eu la chance de faire partie du petit groupe d'accompagnement. Et Christophe, je te tends la perche, je ne sais pas sous quelle forme, mais... Et notamment parce qu'une des conclusions va être de faire la proposition au président de la République du contenu d'un référendum. Et on est bien conscient qu'on n'est pas en Suisse, donc c'est pas le genre de chose qui se produit très régulièrement dans notre République. Donc ça pourrait être un moment important, en tout cas un moment utile pour notre débat dans ce type de périmètre. Voilà, merci encore à nouveau, merci infiniment, et merci à Claire pour son organisation impeccable. À bientôt.
Bravo.
Au revoir. Merci.
Au revoir. Beaucoup.